amis de la poésie et de Radio Occitanie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, avant de recevoir notre invité, Julien Blaine, je voudrais faire deux annonces malheureusement, puisque deux poètes essentiels dans cette poésie d'expression française viennent de nous quitter. Il s'agit de Marie-Claire Bancard, qui était ce professeur émérite de l'université de Paris 5, Sorbonne, qui avait consacré des livres et des articles à la poésie du XXe siècle. Elle était bien entendu poète et auteure d'une vingtaine de recueils. Elle avait reçu les prix de poésie Max Jacob et Alfred de Vigny, et elle était membre de l'Académie Mallarmé. Alors, on fera une émission, bien entendu, sur Marie-Claire Bancard, une émission complète, mais on peut d'ores et déjà dire à nos jeunes poètes qu'il y a un excellent, excellent livre sur la poésie en France, du surréalisme à nos jours, dans la collection Ellipse, thèmes et études de Marie-Claire Bancard. Donc. Et puis, Antoine Emma, ça a été quand même une surprise, une très désagréable surprise, donc, cette semaine, d'apprendre la disparition d'Antoine Emma. Nous avions consacré des émissions à Antoine Emma, et puis nous pensons que nous avions le temps, avant de l'appeler, pour faire une émission avec lui. Mon ami Michel Écart-Elial l'avait contacté, il avait publié dans sa revue Le Vent, très récemment, et il vient de nous quitter. Alors, il était né, lui, en 1955, Antoine Emmaz. Il vivait à Angers, où il enseignait au collège. Et il est notamment l'auteur de plusieurs livres d'artistes et d'un essai sur André Duboucher. On comprend très bien, quand on voit l'écriture d'Antoine Emmaz, qu'il ait été fasciné par ce poète aussi, Antoine Duboucher, et de nombreux livres de poèmes. Donc, paru souvent aux éditions Tarbuste, Sable, c'est le titre de son recueil, Soir, Rat, Os. Voilà. Et puis, bien entendu, Caisse claire, les poèmes qui avaient été rassemblés dans une anthologie qui avait été établie par François-Marie Desrolles avec une postface de Jean-Patrice Courtois. Caisse claire, donc des poèmes sur cette période 1990-1997 qui avait été publié dans la collection Point, Poésie. Point. Voilà. Nous reviendrons sur Antoine Emmaz. Voilà. Place maintenant à notre invité Julien Blaine. Alors nous sommes très très heureux d'avoir Julien Blaine à notre émission. Julien Blaine, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Occitanie. Je vous transmets le bonjour et les amitiés de Joëlle Montec, avec laquelle j'étais il y a peu de temps.
Très bien.
Qui m'a dit,
bonjour à elle.
Et qui m'a dit beaucoup de bien de vous. Et puis je voulais vous dire, vous m'avez envoyé les cahiers de la cinquième feuille, le numéro 8 du 14 décembre 2007, oui. Où j'ai appris que vous aviez résidé à la Casa d'Oro et Nad.
Hein, c'est ça.
Au Mas d'Asile.
Pendant 3 mois.
Voilà. Au Mas d'Asile. Or, le Mas d'Asile, c'est mon village de naissance. C'est mon fief. Et j'ai été absolument ravi donc de prendre connaissance de cette publication que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si les Mazdaziliens, si dans la bibliothèque du Mazdazil, ils ont ça. J'irai vérifier pour voir. Voilà, alors ma première question, c'est d'abord je vais vous demander de vous présenter parce que vous êtes dans la poésie française, je dirais, un des monuments de cette poésie performance, de cette poésie qui englobe tous les actes de la vie. Hein. Comment on peut vous définir, Julien Blaine?
Eh bien, déjà, vous avez à peu près tout dit. Le problème, c'est que la plupart de la poésie, de la plupart des temps de la poésie, la plupart des gens habités pour la poésie ou que la poésie habite, sont toujours obligés de considérer leur texte fini comme une partition. Pour que le poème soit achevé, il faut qu'il soit dit, qu'il soit formulé, qu'il soit articulé. Donc je fais partie de cette école qui veut absolument que le poète soit non seulement celui qui écrit la poésie, mais également celui qui la dit, qui l'articule, qui la gestualise. Donc pour moi, c'était très important, ce rapport entre le poème écrit, qu'on pourrait appeler une partition, comme pour les musiciens, et le poème formulé, qu'on appelle maintenant une performance. Pour moi, ça a été très important. Et dès le début des années 60, puisque j'ai 77 ans, en septembre, j'ai commencé à jouer absolument le jeu de l'interview des éléphants que j'ai traduit, par exemple, etc., etc. Donc le rapport au corps, pour moi, était très important. Et quand on se penche sur cette histoire de l'omniprésence du corps dans la poésie, on s'aperçoit que toute l'histoire de la poésie, vous parliez du Masazi il y a deux secondes, eh bien, les Assyriens, bien sûr, au fond des grottes, c'était sûr qu'ils écrivaient en effet sur des galets, mais qu'ils avaient aussi à prononcer, à articuler et à dire leur poésie. Et on trouve ça même avant avec les Ruinaciens au fond des grottes de Cazel ou au fond des grottes de Cosquer ou de Chauvet, jusqu'à aujourd'hui, où le poète en exercice est un poète qui est en chair et en os, à corps et à cri, qui doit dire ses poèmes. Ça a été tout le temps, si on voit les troubadours qui traversaient depuis là-bas, au fin fond de chez nous, là-bas de Poitiers, ou qui allaient du côté même du Portugal, ou jusqu'à Mantova avec Sorda y Digote, le troubadour, bien sûr, n'est pas un poète dans un livre, c'est un poème qui va de château à château. Donc on voit là les items et les critères de la poésie. Un, c'est un poète nomade. Deux, c'est un poète qui agit, qui dit et qui formule sa poésie. Voilà, pour moi, c'était très important. La deuxième chose qui nous rapproche, c'est ce fameux Masazi, puisque moi, j'ai travaillé bien très longtemps sur l'Orignacien, donc à peu près 30 000 ans avant le Masazi, avant les Assyriens, qui sont la dernière période des Magdaléniens. Ce qui est assez drôle, c'est que cette période-là, elle, qui est de 30 000 différence entre les Orignaciens et les Assyriens, c'est 30 000 ans, entre les Assyriens et Picasso, c'est 20 000 ans. Et on a l'impression que les 30 000 ans d'histoire, ce sont les mêmes. Eh bien non, c'est très compliqué, et c'est très différent. Et on est arrivé quand même à deux points finaux dans l'histoire de l'art contemporain. C'était d'une part le ready-made. Qu'est-ce qu'on peut faire après le ready-made? Ça me paraît difficile de trouver des solutions intelligentes et de création. Et qu'est-ce qu'on peut faire après le carré blanc sur fond blanc de Malevich? Là aussi, ça me paraît encore très difficile de trouver des solutions intelligentes et des solutions créatives. Et donc là, je me suis aperçu que peut-être la solution, c'est de revenir à ce que nous avions perdu, c'est-à-dire la mémoire du corps. Et là, je me suis posé des questions pour savoir pourquoi on avait perdu la mémoire du corps. Et on a perdu la mémoire du corps parce que, en dehors des génocides qu'on connaît tous, les Arméniens, les Juifs, les homosexuels, il y a un génocide qui a été parfaitement réussi, absolu, c'est celui des sorcières, c'est celui des mages au Moyen-Âge. L'Inquisition catholique a brûlé tout ce qui avait la mémoire des petits potages, des petits charmes, des danses, des chants, etc. Donc moi, pour rebâtir cette histoire, il a fallu que je, pour trouver finalement une suite d'avant-garde contemporaine à la poésie, il a fallu que je retrouve la mémoire du corps, malgré cet oubli et ce fracas et ce massacre des gens qui connaissaient ce secret. Donc je suis allé chez les Pierrois, au confluent de l'Orénoque et de l'Amazone, chez les Bamileke, au nord-est du Cameroun, et dans quelques vallées de ci, de là, où on trouvait encore des gens qui connaissaient ces secrets. Ce qui m'a permis, en effet, de rebâtir une poésie, qui est une poésie, on va dire, animiste, mais pas animiste au sens général et collectif, mais animiste où chacun devrait trouver son animisme personnel. Quel rapport il avait à la nature, avec quel arbre, avec quel animal, et se retrouver comme ça à une fonction, qui soit une fonction hors des monothéismes, qui, comme on le voit de plus en plus, est une barbarie absolue depuis 6000 ans. Donc, il faut absolument arriver à s'évader de toutes ces notions idéologiques et homothéistes, qu'elles soient juives, chrétiennes, musulmanes, qui toutes conduisent à la barbarie et au massacre. Voilà, ça c'est ça mon travail. Donc j'ai en effet fait des cahiers à n'en plus finir sur ces retrouvailles avec l'écriture régionale, des cahiers à n'en plus finir, des catalogues, des expositions. Je viens à l'instant de faire une grosse exposition à Nantes, à la galerie Olivier Meyer, sur cette histoire-là qui continue. Je viens de sortir un petit livre que je vais vous envoyer, qui est un espèce de petit manifeste sur l'écriture originelle. Et là, on est en train de travailler avec quelques amis et mon éditeur Laurent Coé, d'Adante, pour arriver à faire de tout ce fatras, toutes ces expositions, tous ces catalogues, tous ces cahiers, un livre qui raconte un peu tout ça. Voilà où j'en suis.
Bon, on retient, vous êtes vraiment le troubadour de maintenant, hein, dans cette
C'est
tradition.
ça, le troubadour animiste et nomade, je suis
Voilà.
d'accord.
Voilà. Et puis, vous essayez, il y a un chapitre dans votre partition qui dit comment sortir la phrase de sa gangue. Donc,
Voilà.
il y a également un travail permanent aussi sur la langue.
Mais oui, ça c'est pour moi très important aussi. Je veux dire, quand on voit les mots tels qu'ils sont, bon, on voit le mot, on voit très bien immédiatement le sens du mot, mais si on rentre dans le mot, si on ouvre le mot, on voit qu'il y a plusieurs significations possibles, voire même quelquefois plusieurs mots dans le mot. Dans le travail, c'est pour ça que moi je peux travailler que sur ma langue, parce que ça me paraît très difficile d'explorer de manière aussi fondamentale les autres langues. Mais dans cette langue-là, qui est la mienne, qui est la nôtre, qui est la vôtre, j'arrive en effet à pouvoir explorer les mots un à un et rebâtir du verbe, et rebâtir du sens, et rebâtir de la conséquence. Sachant quand même, comme vous sans doute, qu'ayant cette mémoire des langues disparues, vous appelez vous l'Occitanie et qu'on appelle nous le Provençal, on a quand même dans la tête la langue qui était celle de nos ancêtres, voire de nos grands-parents, et qui continue quand même à modifier un peu le sens de l'exploration de la langue que nous utilisons aujourd'hui. Pour moi, c'est très important de savoir jusqu'où on peut aller dans la profondeur et dans l'exploration de tel ou tel verbe, de tel ou tel mot, de tel ou tel vocable.
Alors, Julien Blaine, on va essayer d'illustrer ce que vous venez de dire et on va vous écouter dans vos œuvres.
Eh bien, si vous voulez, je peux en faire une qui joue sur deux paroles, qui s'appelle passé et futur, et vous allez voir comment toutes les choses s'installent petit à petit dans ces différentes significations et cette exploration.
Merci, Julien Blaine.
Je vous en prie.
Alors, il y a un texte, peut-être que je vous demanderai
Ah, je vous
si.
entends mal là maintenant.
Oui, pardon. Il y a un texte, peut-être que je vous demanderai si c'est possible, si vous l'avez sous les yeux. C'est justement ce texte, Comment sortir la phrase de sa gangue.
Non, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous écouterai volontiers parce que c'est enfin un texte que vous pouvez lire sans problème. J'avais préparé. Allez, c'est bien que vous le lisiez. Vous savez, il y a une chose quand je lis, quand je fais mes textes, quand je les articule, quand je les gesticule, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai toujours quelqu'un à la fin qui vient me dire, mais vous êtes toujours obligé de crier tout le temps. Voilà. Bon, j'essaye de maintenant de dire mes poèmes de manière un peu différente. Et une fois, des jeunes poètes de Bordeaux m'ont dit, ben, on va faire tes textes à toi, mais on va les lire comme on aimerait les lire et les entendre nous. Ils ont fait des interprétations de mes textes, notamment de comment sortir la phrase de sa gangue, de manière tout à fait neutre, froide, murmurée, et c'était formidable. Donc je serais ravi de vous écouter en
Alors,
train de le lire.
on y va. Comment sortir la phrase de sa gangue? Comment sortir la phrase de sa coquille? Comment sortir la phrase de son écorce? Comment sortir la phrase de son étui? Comment sortir la phrase de sa chrysalide? Comment sortir la phrase de son cocon? Comment sortir la phrase de sa carapace? Comment sortir la phrase de sa conque? Comment sortir la phrase de sa peau? Comment sortir la phrase de son enveloppe? Comment sortir la phrase de son fourreau? Comment sortir la phrase de sa cuirasse? Comment sortir la phrase de sa gaine? Comment sortir la phrase de sa bouche? Comment sortir la phrase de son cuir? Comment sortir la phrase de sa couenne? Comment sortir la phrase de son moule? Comment sortir la phrase de son empreinte? Comment sortir la phrase de sa matrice? Comment sortir la phrase de sa forme? Comment sortir la phrase de son armure? Comment sortir la phrase de sa cage? Comment sortir la phrase de son palais? Comment sortir la phrase de son nid? Comment sortir la phrase de mon corps? Comment sortir la phrase de ma poitrine? Comment sortir la phrase de ma cage? Comment sortir la phrase de mon palais? Comment sortir la phrase de ma bouche?
La langue qui est dans ma bouche, la langue qui est hors de ma bouche, la langue qui revient de ma bouche, la langue qui est hors de ma bouche, la langue qui revient dans ma bouche, l'air qui vient de ma bouche, l'air qui vient de mes poumons, l'air qui vient de ma cage, les mots de ma cage. Comment mettre la phrase à nu? Comment mettre la phrase à nu? Merci, votre lecture était vraiment très belle. Merci beaucoup.
Alors, vous dites un peu plus loin, il ne faut pas avoir peur du ridicule pour être poète ou faire de la poésie ou déclamer des poèmes.
Ça, c'est formidable. Vous savez, j'ai fait pendant presque un quart de siècle une revue qui s'appelait Docs, qui était en fait une fois de plus un jeu de mots entre les docs, c'est-à-dire l'endroit où ça arrive et ça part, et l'abréviation de documents. Et j'ai fait le tour du monde des avant-gardes pendant un quart de siècle. Et quand je suis arrivé en Russie, j'ai trouvé des poètes absolument extraordinaires, qui étaient évidemment masqués par l'État stalinien, qui était Victor Sosnova, qui est un poète extraordinaire, Tolstoï, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était non seulement un poète extraordinaire, mais un performeur magnifique, Édouard Limonov, qui a fait parler beaucoup de lui, parce que après, il est retourné là-bas, il est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, enfin, il est un peu surprenant maintenant. Et Nicolas Bokov, qui est un être absolument adorable et qui vit toujours à Paris. Et Sosnora était resté dans le coma presque 3 ou 4 mois, et c'est lui qui m'a écouté, il m'a dit, c'est vrai, Julien, avec un accent russe magnifique, c'est très compliqué d'être un poète. Parce qu'il faut savoir juger qu'il faut continuer et ne jamais avoir peur du ridicule. Et ça, je l'ai revécu après 1 milliard de fois, non pas avec des publics avertis, non pas encore moins avec des publics qui sont des néophytes, mais avec l'adolescence. L'adolescence, il y en a un ou deux qui a envie de se lâcher comme ça pour dire sa poésie, pour dire la poésie d'autres, et il devient ridicule aux yeux de ses condisciples. Donc chaque fois que je suis allé dans des classes, je veux faire tout ce que vous voulez, de la maternelle jusqu'à la quatrième, de la deuxième jusqu'au terminal, les facultés, les universités, les écoles de beaux-arts, tout ce que vous voulez, mais je ne veux jamais travailler avec les enfants ou les adolescents qui ont entre 15 ans et 17 ans, parce qu'ils sont terrorisés par le ridicule auprès de leurs amis. Et la poésie, c'est justement continuer que ça commence par ça. Hein. C'est François Chain qui a dit cette phrase magnifique, il faut passer du moment où on habitait la poésie au moment où la poésie nous habite. Et là, on est dans le ridicule complet, mais on s'en fout.
Alors, il y a aussi un texte qui me semble très, très, très important et qui résume un peu ce que vous venez de dire, c'est écrire, dire, cette relevée, se relever.
C'est vraiment extraordinaire parce que vraiment tous les sens de relever, on en revient à notre dialogue tout à l'heure, tous les sens de me relever sont exactement ce qu'il faut faire pour arriver à écrire, à avoir une écriture contemporaine, une écriture vraie. Et donc j'ai cherché tout ce qui était possible pour relever, c'est le goût, c'est la robe, c'est etc., c'est quelqu'un qui tombe, c'est faire une côte par rapport à un archéologue, etc., etc. Et tous les sens de me relever vraiment, c'est comme un manifeste, par exemple, pour une écriture et une poésie nouvelle.
On peut le lire, ce texte, peut-être?
Ah, mais je vous écoute
Oui.
volontiers.
Remettre debout ce qui était tombé, reconstruire ce qui était en ruine, remettre à flot ce qui était échoué, retrousser ce qui masquait les formes, redresser ce qui restait incliné, rétablir ce qui avait failli, rendre digne ce qui était méprisé, remplacer ce qui était parti, remarquer ce qui était l'erreur, révoquer ce qui était néfaste, délier ce qui était promis, donner du goût à ce qui était fade.
Alors regardez comme c'est extraordinaire ça. Donc on en prend un au hasard, mais on pourrait faire la digression sur tous. Hein. On reprend ce qui masquait les formes. Alors d'un coup on se penche sur l'histoire de l'art, et on s'aperçoit que l'histoire de l'art, notamment les arts plastiques et dans la sculpture, c'est l'histoire du plissé. Si on voit nos belles vierges dans les pinacothèques, ou jusqu'à aujourd'hui, les compressions de César, les emballages de cristaux, ou les couvertures de Beuys, on s'aperçoit que toute l'histoire de l'art, c'est l'histoire du plissé. Donc moi, je me suis penché beaucoup sur ce problème. Et là, on s'aperçoit que l'histoire de l'art et l'histoire de l'humanité, c'est le même. Si on prend le premier plissé, c'est le linge. Si on prend le dernier, c'est le linceul. Le linge et le linceul. Alors, reprenons le mot, alors. Le linge, linge, linge. Ah, le premier drap, le premier plissé, c'est l'ange, l'ange ou le linge, l'ange. Ah, je ne sais plus alors. On est où là? On est entre le linge, on est avec l'ange. De quoi on parle? Ah, le linceul, alors. Ah, ça c'est le dernier. Le linceul, mais c'est quoi le linceul? C'est le linceul ou le linceul? Je suis tout seul, linceul ou linceul? De quoi on parle là? On parle de la solitude ou on parle du dernier drap? Et vous voyez comme tout le temps, l'histoire de l'art, quand il est vraiment bien foutu, bien encastré, bien vrai, bien humain, comment il se confond avec l'histoire de l'humanité. Et c'est ça le travail de la poésie. Comment arriver à avoir des vérités humaines, fondamentales et perceptibles par tous.
Julien Blaine.
Allô? Oui. Ah, ça y est.
Julien Blaine, est-ce que...
Oui, je suis là.
Je voudrais peut-être... Est-ce que vous pouvez nous dire... Avant, on va vous demander de nouveau de nous lire des performances, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du Mas d'Asile? Ce que vous avez, les impressions que vous avez eues au Mas d'Asile, ce que vous avez éprouvé au Mas d'Asile,
oh
les gazés asiliens,
là.
Etc.
Ah ben ça, Mas d'Asile, donc d'abord, ça a été très compliqué pour moi parce que je voulais absolument passer une ou deux nuits dans le Mas d'Asile. Donc les conservateurs et autres archéologues spécialisés du Mas d'Asile me l'ont interdit. Donc il a fallu que je passe par des courts-circuits compliqués pour arriver à le faire là. Et finalement, j'ai trouvé une combine que je n'évoquerai pas à la radio, mais pour pouvoir, grâce à des amis, IE, pouvoir aller dormir au Mas d'Asile. Donc j'ai passé là-bas de nuit. La première chose qui est importante, c'est qu'il faut savoir que le Mas d'Asile est peuplé par des milliers et des milliers de chauves-souris, et qu'à 4 heures, entre 4 heures et 5 heures du matin, à la minute M, à la seconde S, comme je disais tout à l'heure, tout se réveille, tout s'envole. Et d'un coup, l'immobilité du Mas-Asile, de la caverne du Mas d'Asile devient vraiment une source de mistral et de vent furieux. C'est simplement les chauves-souris qui s'envolent. C'est un moment absolument inoubliable. Donc on se radore, on est tranquille, on ne se radore pas, mais on est là. Et là, on sent vraiment de cette spiritualité, la mienne, pas celle dont on parle tout à l'heure, mais cette spiritualité qui revient. Donc là, vraiment, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et le lendemain matin, je vais voir cette dalle percée, qui est une très belle dalle percée. Et donc là, je commence à me renseigner pour savoir pourquoi une dalle percée. Alors, il se trouve que les Asiliens étaient des gens qui étaient très propres. Donc, ils mangeaient sur cette dalle percée parce qu'ils pouvaient après jeter les os. Et donc, la caverne restait toujours propre à l'endroit où ils vivaient, où ils dormaient, parce qu'ils jetaient les os par cette fissure sur la plateforme. Et puis, donc, les archéologues ont fait leur métier pour savoir ce que mangeaient ces gens-là. Et dans ce que mangeaient les Asiliens, ils ont trouvé quand même aussi le crâne d'une jeune fille, très belle, qu'on appelle Magda, que j'appelle Magda, et que les gens appellent Magda, qui a été reconstituée grâce aux services spéciaux, des services spéciaux de la police française, et qui est au musée du Mas d'Asile. C'est une jeune fille absolument délicieuse, d'une beauté absolument incroyable, et dont je suis tombé fondamentalement amoureux. Donc on a eu vraiment ce rapport... à 15 000 ans de distance entre Magda et moi. Et je me suis rappelé que quelques années auparavant, en visitant une grotte ruinacienne très 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 peu connue, qui s'appelle la grotte de Cazel, où on rentre par un trou de renard, j'avais aussi eu cette impression d'une personnalité que j'avais appelée Orinia, puisqu'elle s'appelait, c'était la période orinacienne. Et donc j'ai essayé de faire plusieurs expositions avec ces deux égéries, ces deux muses, ces deux femmes fondamentales pour moi, fondamentales à tous les sens du terme, y compris au sens de la vulve, qui étaient Magda et Orinia. Et à ce moment-là, je suis revenu à mes histoires d'écriture originelle, et je me suis aperçu que dans toutes les fondements religieux, spirituels, quels qu'ils soient, on a toujours la même forme, l'ovale fendu. L'ovale fendu qu'on retrouve chez les Amérindiens sous la forme d'une plume, qu'on retrouve chez les Africains sous la forme d'une feuille, qu'on retrouve chez les monothéistes, que j'ai tant décrié à juste titre, sous la forme du poisson de l'œil, et qu'on retrouve il y a 50 000 ans dans la grotte Cosquer et dans plein d'autres grottes ignatiennes sous la forme de la vulve, y compris des femmes offertes avec la vulve offerte. Donc, on revient à Courbet et à l'origine du monde. Et en effet, ces gens-là avaient tout compris. Et quand on se penche au fond de ces grottes, notamment la grotte Cosquer, dans la grotte Chauvet, on s'aperçoit que ce qui va au fond des grottes, c'est sans doute des femmes. Les chamans orignaciens étaient sans doute des femmes. Parce que le monde est au fond des grottes, et on voit des traces d'enfants à côté. C'est rare que les chasseurs se fassent accompagner des petits-enfants. Et on voit également partout des graminées. C'est-à-dire que les gens venaient là avec des fleurs, avant de peindre et de graver leurs animaux, ce qu'on comprend très vite, et des signes qui sont sans doute un vocabulaire qu'on n'a pas encore transcrit. Ce champollion-là n'existe pas, c'est pas moi, donc j'essaye d'être ce champollion-là, mais je ne le suis pas. Donc j'essaye de deviner leur langage par intuition. Et cette nuit au Mazazil, pour moi, a été une révélation, parce que vraiment, il y a eu, comment dire, un contact charnel, ça serait beaucoup dire, mais les paysans du coin appellent ça « Julien Blaine a vu la dame blanche ». En tout cas, il s'est passé quelque chose. Ça a été pour moi un des plus grands souvenirs de ma vie, ça, et la visite dans la petite grotte de Cazel, près des Cécile de Taillac. Mais si on part sur ce sujet, on en a pour 40 émissions, vous savez. Parce qu'il y a plein de secrets sur les Vénus de l'Ocel, sur les vulves ruinaciennes qu'on trouve dans les abris sous roche. Enfin, c'est extraordinaire.
Alors, je vais vous dire... J'ai eu l'occasion de passer plusieurs nuits, moi, dans cette grotte.
Parlez plus près, parce que là, ça entend très mal.
Je disais, j'ai eu l'occasion de passer, moi aussi, plusieurs nuits dans cette grotte.
Bravo.
Parce que dans les années 60, je participais...
On pouvait le faire.
À des journées de fouilles avec le conservateur de l'époque, qui était le pharmacien à cette époque-là. Et c'est mon père... Qui a extrait la tête de jeune fille, le crâne de jeune fille dont vous parliez tout à l'heure.
Oh là là,
il
c'est
était
incroyable,
dans une
ça.
Brèche osseuse. Et nous
vous
avons
trouvé
cette brèche osseuse. Et je l'ai vu donner le dernier coup de ciseaux et de maillet pour enlever ce crâne. Un crâne de
250 cubes.
Oui. Et alors, à côté de cette brèche osseuse, un peu plus loin, il y a une galerie qu'on appelle la galerie des peintures.
Oui,
il y a 25 gravures et peintures, c'est l'abbé Breuil qui en avait fait le recensement à l'époque.
J'ai
si
eu droit à ça.
Si vous revenez au Mas d'Asile, ou si vous êtes dans la région, j'aurai grand, grand plaisir à vous faire visiter cette galerie.
Formidable, mais volontiers. Hein. Le rendez-vous, ça va se prendre. Dès que l'émission est terminée, on se rappelle, on prend rendez-vous.
Alors, peut-être on pourrait lire ce que vous avez écrit sur le galier asilien, qui risque de parler le jaune, le rouge, le trait ou les traits, le point ou les points, le grain du galet, le bord du galet, le plein du galet, ça parle ou ça compte, ça joue ou ça mesure, ça se traduit ou ça s'étue. Voilà. Le Mas d'Asile,
exactement, on en revient à ça, c'est sûr qu'il y a une écriture, on ne fait pas des galets comme ça par décoration, donc c'est une écriture, ou c'est un calcul, ou c'est un comptage, mais comme c'est très différent, ça ne peut pas être simplement des comptes, c'est donc plus compliqué que ça, donc il y a en effet là-dessus un langage qui se passe par rapport à ces galets, ce langage nous est méconnu, et c'est-à-dire que si demain on trouve un galet d'une autre langue, et que le type connaît sa langue, il n'y a plus ça. Champollion avait dans sa tronche et dans son écriture, je ne sais pas combien de langues. Nous, le plus grand des linguistes doit avoir une quarantaine. Donc on ne peut plus trouver ça. Mais il est clair, ils nous disent quelque chose. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Alors comme on ne peut pas savoir réellement ce qu'ils veulent nous dire, il faut travailler comme j'essaye de faire depuis un quart de siècle, travailler par intuition. Je ne sais pas ce qu'ils veulent me dire, mais peut-être que c'est ça, et peut-être que j'ai raison, et peut-être que j'ai pas tort, et sans doute je me trompe, mais ça n'a aucune importance. J'essaye de vous dire, après les points finaux de l'art contemporain, que sont le ready-made et le carré blanc sur fond blanc de Malevich, j'essaye de vous dire qu'il y a une continuité dans ce que l'humanité essaye de dire à l'humanité.
Julien Blaine, si vous voulez bien,
oui.
On va vous écouter de nouveau.
Je vais vous faire alors un petit texte sur, qui est un texte italien, mais que vous voyez très bien, c'est le io, c'est-à-dire je, moi, I en anglais. Donc vous voyez, donc là, si on part sur quelques langues européennes, on peut se régaler sur les différentes significations entre le i et le o. Io, je, I, le je anglais, ou le moi, où on retrouve le io inversé avec le m qu'on peut qualifier et qu'on peut conjuguer du français.
On peut parler peut-être, vous parliez tout à l'heure en introduction de Malevich.
Oui.
Vous pouvez en dire un mot.
Mais, si vous voulez, donc il y a eu toute la partie constructiviste de la peinture contemporaine qui a été de plus en plus abstraite et il y a toujours quelqu'un qui veut aller au bout de l'idée. Donc Malevich a trouvé que la meilleure idée c'est de faire un carré blanc sur fond blanc. Que j'ai vu évidemment au Musée d'art contemporain de New York, et lequel n'apporte rien. Je veux dire, ce qui est important, c'est pas tellement de voir le tableau du carré blanc sur fond blanc de Malevich, c'est le concept. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un type qui dit, qu'est-ce que tu veux faire après ça en peinture, quand moi j'ai fait le carré blanc sur fond blanc de Malevich? Ben rien, il n'y a rien à faire, il faut trouver une autre solution. De la même façon, quand on parle de Duchamp, lui il dit, ben voilà, je vous montre un porte-bouteille, je vous montre une bâche de machine à écrire, je vous montre un porte-manteau, je vous montre une roue de bicyclette. Et cet objet manufacturé, dans lequel l'artiste ne fait aucune intervention, ni manuelle, ni quoi que ce soit, c'est son choix, et ce choix fait que cette œuvre, cet objet manufacturé devient une œuvre d'art. Qu'est-ce que voulez-vous faire après ça? Rien. Donc c'est moi qui m'inscris dans cette histoire-là, qui est l'avant-garde. C'est un mot stupide, mais c'est comme ça. Vous savez, quand on veut modifier le comportement de l'humanité, il faut 2 siècles. Les troubadours dont on parlait tout à l'heure, c'est 2 siècles. Les Tang en Chine, c'est 2 siècles. La grande poésie pré-islamique arabe, c'est 2 siècles. La Renaissance, c'est 2 siècles. L'avant-garde, c'est 2 siècles. Donc on est à mi-parcours. Ça a commencé avec Mallarmé, et puis après toutes les avant-gardes historiques, futuristes, dadaïstes, surréalisme, Cobra, et nous. Mais donc maintenant, on est à mi-parcours, ça fait un siècle que ça dure. Donc on est bien obligé de trouver une solution pour que cette idée de l'avant-garde continue. Donc si on veut continuer ça, on dit, finalement, qu'est-ce qu'est notre apport? Parce que la poésie, c'est d'apporter la liberté, le vers libre, la parole libre, la parole libertà, tout y quoi. Et donc on va de plus en plus de liberté. Donc qu'est-ce que je peux apporter moi de plus? C'est la mémoire. Pourquoi j'en ai plus la mémoire du corps? Ce que je vous disais tout à l'heure. On a perdu la mémoire du corps parce qu'on a eu l'inquisition catholique qui a brûlé tous les gens qui avaient la mémoire du corps que ce corps passait soit par la gesticulation, soit par le chant, soit par des potages, des charmes et d'autres charmes de ce type. Voilà. Donc j'ai dit, alors comment je vais pour retrouver cette mémoire qui est perdue? Et je suis allé chez les gens, et les personnes, et les chamans, et les sorciers, et les gens qui n'avaient pas encore cette mémoire du corps, de la voix, du chant, et des secrets de ce type. Ce que tout à l'heure, comme je dis tout à l'heure, les Pierrois en Amazonie et les Bénédicés en Afrique. Il me reste à voir maintenant les aborigènes, et que je vais aller voir l'année prochaine. Ce qui est important, là on revient à l'histoire de tout à l'heure, c'est quand on fait visiter Lascaux, la vraie, aux aborigènes, c'est un Jean-Jacques Léber qui a cette idée, il fait venir, et tout de suite, ils rentrent dans Lascaux, et ils ont des gestes ancestraux pour faire venir les morts. Tout de suite, ils allument des trucs, etc. Donc ils passent au rite, comme si 50 000 ans avaient continué à se poursuivre, parce qu'il n'y a pas eu la rupture chez les aborigènes que nous avons eue en Europe, grâce à la chrétienté et au catholicisme romain. Voilà, donc mon problème à moi, ça a été donc de sortir de ces espèces de bornes absolument définitives que sont le Carré Blanc et Formation Malévis, pour que ce mouvement-là, l'avant-garde, se poursuive et que, ayant apporté la liberté que, évidemment, les politiques essayent de gommer de plus en plus, comme on peut le voir, on apporte aussi la mémoire qu'on nous a confisquée.
Alors, dans ce que vous venez de dire, je vois qu'il y a un rapprochement entre l'avant-garde, ce que vous appelez l'avant-garde, avec Malevich, Mondrian, Klein, etc., Duchamp, et ce que vous avez dit également sur ce qu'on peut appeler la parole perdue, c'est-à-dire retrouver l'origine de l'art, l'origine de la parole que nous avons perdue.
Mais c'est 100% ça, quand on voit les calais asiliens, je veux dire, et qu'on voit n'importe quelle œuvre abstraite, je veux dire, il y a un rapprochement à faire qui est vraiment incroyablement facile à faire. C'est en effet, la même histoire continue. Bon, voilà, et donc c'est pour moi très très important de dire, je vous disais tout à l'heure, c'est quand on considère les 30 000 ans de la préhistoire qui va donc de l'Aurignacien à l'Asilien, passant par les Madéliens, et toutes les cultures et les époques qui ont traversé cette période-là, il y a 30 000 ans d'histoire, et entre les Asiliens et nous, il n'y a que 15 000 ans. Donc voilà, il faut arriver à faire abstraction de ces 6 000 ans de dictature monothéiste, qu'il faut absolument arriver à effacer pour continuer à être des humains. C'est pour moi très très important, mais vous savez, je ne suis pas désespéré, parce que toutes les religions sont mortelles, donc celle-là elle est un peu plus longue que prévu, mais je ne désespère pas qu'elle meure un jour aussi.
Donc quand vous étiez au Mas d'Asil devant les galets, ou ailleurs devant les peintures aurignaciennes ou des sculptures magdaléniennes, vous étiez en fait devant l'avant-garde?
Ouais, une poursuite de l'avant-garde qui aurait pu être masquée par ces génies qui ont été Malevich et Duchamp, qui avaient arrêté d'une manière définitive l'histoire de l'art et l'histoire de la poésie. Donc en effet, d'un coup, ça a repris, c'est devenu quelque chose qui pouvait être poursuivi et un travail qui pouvait être prolongé.
Alors, la spiritualité, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre conception de la spiritualité?
Ben, voilà, moi tout a commencé en 62, donc j'ai 20 ans, je suis un jeune homme, et je m'aperçois que la forme poétique la plus importante pour moi, la plus intéressante, c'est le bestiaire. Et on trouvera, et là on revient encore une fois de plus à nos fameuses histoires préhistoriques et à nos histoires de cavernes, où on retrouve également les bêtes partout. Et ce bestiaire pour moi était quelque chose qui était une forme absolument importante, le bestiaire qu'on retrouve dans les fables, depuis la création de la littérature grecque, latine, jusqu'à La Fontaine et d'autres aujourd'hui, parce qu'on peut considérer également que Francis Ponge est un fabuliste de l'objet, et donc je me dis, il faut vraiment que j'arrive moi aussi à trouver une forme comme ça. Et là je tombe sur un livre qui est absolument un livre absolument éblouissant, qui est le livre de Guillaume Apollinaire, qui s'appelle « Le bestiaire au cortège d'Orphée », qu'il a fait avec des bois de tuffy, qui a refait tous les animaux. Et je dis, ça c'est quand même vraiment très intéressant d'essayer de faire un bestiaire à partir d'un personnage central. Donc Orphée, c'était un peu à la mode à l'époque, avec Jean Cocteau et tout ça. Et donc moi, je n'ai pas du tout que mon bestiaire tourne autour d'Orphée. Et voilà que donc passe là à Aix-en-Provence, le cirque Francky. Et à cette époque-là, les cirques qui arrivaient dans les petites villes avaient le droit de faire une parade sur la principale avenue. Et donc je vois le cirque Francky, je vois mes éléphants, J'ai dit, voilà, l'éléphant, c'est quelque chose de formidable. Je vais faire ça avec l'éléphant du cheikh Francky. J'ai dit à M. Francky, et je lui demande si je peux interviewer son éléphant. Bon, il me dit, oui, si vous voulez. Bon, il trouve ça un peu surprenant, mais enfin, maintenant, il est d'accord. Et donc, je viens avec mon magnétophone, c'est un Philips, c'est le début du magnétophone, et j'interviewe mon éléphant. Trop, nouez-vous, éléphant, faut s'assurer l'air extérieur. Et mon éléphant, évidemment, n'a aucun intérêt à me répondre, ça ne l'intéresse pas du tout. Néanmoins, elle me coupe la parole une fois ou deux, en jetant son barrissement. J'entends au fond un lion qui rugit, enfin voilà, j'ai l'enregistrement, je rentre chez moi, je suis très content, j'écoute tout ça. Et puis, je change les vitesses, comme ça, comme font tous les adolescents pour changer de vitesse. Et à ce moment-là, c'est moi qui deviens complètement imperceptible, incompréhensible. Et par contre, l'éléphante qui parlait de manière incompréhensible par ses barrissements, se met à parler de manière tout à fait compréhensible, traduisible, par des interjections et des onomatopées. Oh, ah. Et donc, j'étais le premier traducteur de la langue éléphantine. Et j'étais très content, donc pour moi, cet effet de rapport à l'éléphant est devenu primordial. Et donc, ça a été mon premier rapport spirituel à une communion avec une bête absolument formidable, grandiose, sur laquelle j'ai beaucoup écrit et beaucoup performé et beaucoup exposé. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis j'étais, hélas, adolescent, un chasseur sous-marin absolument répugnant. Je regrette ça comme je regretterai toute ma vie. Et quand on fait de la chasse sous-marine, il y a deux pauvres bêtes qui sont tellement intelligentes qu'elles se font tuer à tous les coups, c'est la rascasse et le poulpe. Parce qu'ils se mettent d'une telle façon qu'on ne veut pas les voir. Mais si on les voit, comme ils se croient invisibles, eh bien on les tue quasiment à bout portant et quasiment à coup sûr. Voilà. Et puis d'un coup, je me suis rendu compte quand même que je tirais sur des bêtes qui étaient plus intelligentes que moi et que je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Et donc j'ai jeté mon harpon pour toujours et ma fouine, je ne m'en suis jamais plus servi. Et je suis redescendu, essayer de jouer avec les poutres. Ça s'est passé très vite. Il y a eu un rapport qui s'est établi immédiatement entre le poulpe et ma main. D'un côté, il y a octopus, 8 tentacules, de l'autre côté, il y a 5 doigts, et tout ça fait une communion qui est une communion absolument splendide. Et donc, on a eu des rapports comme ça, très, 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 très beaux et très, très amicaux, le poulpe et moi. Et le problème, c'est quand moi, je remontais à la surface, il fallait que je me fâche et que je redevienne agressif pour qu'il ne tombe pas sur la première fouine qui passait par là ou le premier harpon. Voilà, et donc il y a une autre communion qui s'est établie avec ce second poulpe que j'ai considéré petit à petit comme l'éléphant, comme un totem. C'était vraiment pour moi très 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 important, d'autant plus que quand on considère le calmar, on sait que c'est l'écriture du VIe siècle, c'est un autre céphalopode, ce qui jette pour se dissimuler et pour pas qu'on le voit et pour qu'on arrive à le rater quelquefois, il jette son encre dans la mer. Voilà, et donc tous ces rapports-là étaient des rapports qui ont fait que j'avais un rapport très personnel avec le poulpe lui aussi. D'autant plus que le poulpe, à l'inverse de l'homme qui a un seul petit cerveau, a 9 cerveaux, un cerveau central et un cerveau par tentacule qu'il peut connecter absolument comme il désire. Et non seulement il a 9 cerveaux, mais il a 4 cœurs. Le problème c'est qu'il meurt très vite et donc il ne peut pas transmettre la connaissance, sinon on aurait des bêtes qui seraient sans doute supérieures à l'homme. Voilà, donc deuxième rapport spirituel à cette bête. Et enfin, en 96, j'ai dit que quand même, à mon âge, ça commençait à bien faire, me mettre à poil, me faire tatouer en public. Tout ça, c'était quand même un peu vieux, un peu exhibitionniste. Et que c'était un peu facile de faire des performances exhibitionnistes quand on est vieux, parce que c'est forcément spectaculaire. Et donc, j'ai décidé que j'allais arrêter la performance, ou du moins que j'allais arrêter ce type de performance pour faire des performances plus sobres, des déclarations, comme je disais. Déclarations, voilà. Et donc j'ai voulu refaire avec des jeunes gens le tour de l'Europe, avec chaque fois dire voilà, j'abandonne la performance, mais cette discipline-là est loin d'être terminée, et voilà, à Marseille c'est un tel, à Strasbourg c'est un tel, à Berlin c'est un tel, à Londres c'est un tel, et chaque fois j'avais 2 ou 3 jeunes performeurs poètes qui passaient avec moi dans cette même tournée. Et donc quand je suis retourné à Marseille, puisque j'avais commencé à Marseille, je voulais finir à Marseille, j'ai voulu refaire l'interview des éléphants. Mais entre-temps, les lois avaient changé, et j'avais plus du tout le droit de faire un truc avec les éléphants. J'ai dit, c'était pourtant dans un lieu clos, à la friche de la Belle Mai. Non, non, on n'a plus le droit de faire sortir les éléphants du ghetto du cirque. Alors j'étais très ennuyé parce que je voulais quand même refaire ma première performance pour finir, c'était ma première performance, avec l'interview des éléphants. Et là, J'ai pensé que, regardant Goya, regardant l'histoire des littératures, l'histoire des gravures, l'histoire des peintures, il y avait quand même un troisième animal qui pouvait m'aider à être ce que j'étais, c'était l'âne. Et donc j'allais chercher un âne dans le Var, une très belle ânesse qui s'appelait Manon, et j'ai refait l'interview des éléphants avec une ânesse. Évidemment, ce rapport s'est établi avec elle, et là j'ai fait des livres à n'en plus finir sur mon rapport avec les ânesses, avec les ânes du Berry, avec les beaux des Poitevins, avec mes âneries dans les Berry, avec tout ce rapport que je pouvais avoir avec les ânes ici ou là, dans le monde entier, même au Soudan, où j'ai travaillé avec des petits ânes tout petits qui sont blancs et délicieux. Voilà, donc le problème c'est de m'identifier, de retrouver une fraternité comme ça, et une humanité dans le rapport aux animaux, et puis cela après a commencé à s'étendre à certains arbres avec lesquels j'avais un rapport plus personnel, notamment certains chênes, enfin des trucs comme ça. Voilà, c'est un rapport à la nature qui consiste à dire, ben on n'est pas tout seul, il faut arriver à vivre ensemble, c'est pas écolo, mais c'est une communion avec l'animalité qui est en nous. Regardez comme l'animalité, c'est encore un beau mot, l'animal, etc. Ou si on parle de l'âne, si on ajoute une jambe à l'âne, ça devient l'âme. Voilà, et tout ça, c'est un rapport qui me permet d'être dans cette spiritualité personnelle. Je ne revendique pas que les gens viennent dans cette même spiritualité. Ce que je demande, c'est que chacun trouve une liberté par dans sa propre spiritualité, qui puisse l'éloigner à jamais du monothéisme.
Merci Julien Blain, je crois que vous avez vraiment répondu d'une façon assez complète à ça. Hein.
Merci à vous, vraiment.
On n'a pas de temps, mais j'aurais voulu vous poser le problème de... vous dites le poète est à la fois celui qui pose la question, l'appétit, l'exégète, le prêtre, le prophète, l'autre chose. Ce qui m'intéressait aussi, c'est votre conception de la prophétie, justement, de la poésie.
Absolument. Dès qu'on jette un mot comme ça qui veut rien dire et qu'on le prononce un milliard de fois, petit à petit, on sent dans sa tête les significations, les traductions possibles. Et n'importe quel cri inarticulé, n'importe quel borime pitique peut devenir une réponse à une question qu'on peut se poser.
Merci.
En tout cas, je vous remercie vraiment.
On voit avec vous ce que vous avez déjà écrit. Hein. Voici un poème.
Reparlez plus près.
Un poème va avec vous, du verbe à l'onomatopée, du corps à la voix, du geste à la parole, du simulacre au risque, voire de la prise de risque au lâchage du simulacre.
Exactement. C'est ça la poésie, c'est une autre performance que j'ai beaucoup jouée et que j'ai arrêtée à 40 ans, donc ça consistait à tomber de plus en plus haut. Et j'ai fait le final dans les escaliers monumentaux de la gare Saint-Charles, je suis tombé du haut des escaliers jusqu'en bas, où il y avait à peu près 400 marches. Et quand je suis arrivé en bas, donc c'était une chute vertigineuse, et que je suis arrivé à voir, évidemment, les gens se précipitaient pour voir si je ne m'étais pas blessé. Et à ce moment-là, j'ai mis le doigt sur la bouche, et j'ai fait chute. Et donc, il y a un grand méréen que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Frontier, qui a dit « Julien Blain a inventé la métaphore incarnée ». C'est assez beau.
Magnifique. Merci beaucoup, Julien Blain. Alors, nous
rappelons
à nos auditeurs, donc, ils trouveront toutes les indications sur vos publications sur notre site lespoètes.site,
voilà.
Également sur...
sur Google, ils tapent Julien Blain sur Google, ils ont au moins 400 ou 500 possibilités.
Voilà. Voilà. À très bientôt.
Merci. Et merci à très bientôt à vous, merci encore.
Ainsi s'achève Les Poètes. Nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.